Donc le titre c'est Terrain et intrigue, passé, présent et futur des jardiniers en Vim. Et vous allez voir, je vais parler un peu de tout ça. Mais tout d'abord, il fallait peut-être faire le lien avec la journée, puisque de présenter notre enquête sur les potagers et les jardins urbains bruxellois lors d'une journée qui est consacrée aux études récemment menées en France sur les écoquartiers peut sembler étonnant. Et à vrai dire, quand j'ai lu l'argumentaire, je me suis dit moi-même, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc, ce l'est donc jusqu'à un certain point. Pour ceux et celles qui ont consulté notre site, je crois personne, mais enfin bon donc, et ou qui connaissent nos travaux, il est évident que notre enquête ne porte pas sur l'écoquartier. Personne de chez nous n'a vraiment travaillé cette question-là. Notre enquête ne s'intéresse pas non plus à l'habiter. Et c'est un mot qui, jusqu'à présent, et je crois que ça peut changer après cette journée-ci, mais c'est un mot qui, jusqu'à présent, n'a pas suscité de débat ni de réflexion entre nous. Et notre enquête ne tourne pas autour de la notion de la ville durable, même si nous sommes financés parce qu'il y a un engouement de la part du monde politique pour ces dites villes durables. Plutôt, notre enquête prend comme point de départ une pratique, le fait de cultiver la terre en ville. Nous traçons le territoire qui se dessine à travers cette pratique et nous tentons de relever les questions, les problématiques telles qu'elles sont formées, suscitées par cette pratique. Donc nous suivons vraiment cette pratique dans la ville. Nous ne partons donc pas d'un quartier ni de l'habiter, mais d'une pratique et cela change pas mal de choses, comme tu l'as déjà dit. Alors, Rémi et Jérôme, donc avec qui on a été en contact, l'avaient bien deviné lorsqu'ils nous ont invités. Une zone de contact peut être créée entre les enquêtes menées sur les écoquartiers et celles que nous menons sur les terres cultivées. Cette zone de contact ne serait autre, je crois, que l'intérêt pour la pratique. Nous étudions tous ici, plus ou moins, les pratiques d'habitants. Et nous misons sur elles, nous les mettons en récit parce que nous pensons que ces pratiques ouvrent des portes et des possibilités pour l'avenir ou que du moins elles font réfléchir à nouveau frais la question du durable et de l'habiter. Bref, notre équipe est invitée parce que nous amenons une pratique en particulier, celle des terres cultivées en vigne, qu'il s'agirait alors de rajouter au panorama couvert par la notion d'habitabilité, des écoquartiers ou des villes durables. Mais il y a autre chose, et je crois une intuition assez féconde que j'ai retrouvée donc dans les échanges de mails, c'est que Rémi et Jérôme suggèrent que de renverser la logique de l'enquête, de partir d'une enquête plutôt que d'un quartier, nous permet de rejouer les termes du débat. Un de ces termes qu'ils nous proposent de reconsidérer est la transition. Et en effet, dans la mesure où ce terme suggère des simples additions au statu quo, et qui légitime les logiques d'expansion du marché bien en place, ce terme pose évidemment problème. Mais, ce terme, nous ne pouvons pas non plus nous en débarrasser trop vite ou trop facilement, puisque nous tentons tous ici, justement, d'esquisser d'autres horizons possibles. Donc la transition vers d'autres mondes et d'autres configurations sociétales, environnementales, nous importe. Bref, effectivement, le mot est à reconsidérer. Rémi et Jérôme, alors, nous proposent de parler de catastrophe. Plutôt que de se demander comment faire la transition, puisqu'on sait qu'il y a un problème à ces termes-là, posons plutôt la question qui semble plus ancrée, en effet, plus tactique, de savoir comment vivre avec la catastrophe. Et là aussi, nous hésitons. Et nous hésitons pas parce que ce ne serait pas plus ancré, mais de quelle catastrophe parlons-nous exactement ? Et nous ne posons pas cette question parce que nous sommes plus malins hein, ou parce que nous aimons à jouer au petit malin, pas du tout, mais parce que de suivre une pratique et de traquer les méandres du territoire que cette pratique dessine nous a appris une chose assez simple mais perturbante qui est que aucun mot n'est bon en soi. On s'en sortira pas. Donc qu'un territoire, pour le dire autrement, suscite ses mots propres pour qualifier le présent. Intuition féconde, donc celle de Rémi et de Jérôme, partir d'une pratique de ces zones d'importance, du territoire que cette pratique dessine au ras du sol dans la ville et au présent, va rejouer à chaque fois les termes du débat parce que ce territoire suscite ses propres mots pour qualifier le présent. Alors, il faut dire que pour l'instant, nous organisons aussi un séminaire de visite et de balade autour du thème « Vivre dans les ruines du capitalisme ». C'est une expression que vous connaissez peut-être, elle vient d'Anna Tsing. Et que ces balades nous ont de plus en plus convaincus qu'il faut savoir dire, préciser, quelles sont les ruines exactement, de quoi on parle exactement, quel est le capitalisme précisément auquel on a affaire sur un territoire et dans une situation particulière. Et je le répète, non pas pour faire de l'exégèse académique, ni pour montrer notre bravoure anticapitaliste, mais parce qu'il nous faut ces précisions afin de pouvoir saisir ce que recouvre le début de la phrase, le vivre, apprendre à vivre dans. Il nous faut apprendre à penser à partir d'un territoire et d'une situation particulière, quelle ruine, quel rouage du capitalisme exactement, afin de pouvoir saisir par où passe exactement et où se joue ce que Tsing appelle aussi les arts de vivre sur une planète endommagée. Debout donc, les ruines, et là on est très souvent très éloquent en tant que chercheur, mais aussi ce vivre qu'il nous faut tenir en même temps. Car se positionner et se penser dans la catastrophe n'a de sens, selon nous, et c'était là qu'on avait une hésitation, que si cela nous permet d'y détecter et d'y apprendre à pratiquer des arts de vivre sur une planète donc endommagée. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de faire dans la présentation, rien moins que ça. Et en gros, notre présentation, elle se fera en deux temps, puisqu'il y a deux bouts, il y a la catastrophe et puis il y a le vivre. Donc, premièrement, nous définirons la catastrophe du point de vue de la pratique que nous étudions. Non pas la catastrophe en général, non pas le capitalisme pour faire bref, mais la catastrophe concrète, matérielle, tangible, dans laquelle sont plongés les jardiniers, ou comme on les appelle aussi à Bruxelles, les potagistes. Du point de vue des terres urbaines et de ceux et de celles qui les cultivent, de ce point de vue-là, quelle est la catastrophe exactement? Est-il adéquat, fécond, utile même de parler de catastrophe? D'ailleurs, de ce point de vue-là, à nouveau, en partant de territoire, de ce territoire particulier que sont les terres cultivées, en partant donc de ces praticiens assez singuliers que sont les potagistes, en partant aussi des récits que ceux-ci font de leur pratique et de leur territoire, peut-on encore dire qu'on est en transition ou que l'on voudrait une transition? Est-ce une transition ou une catastrophe qu'on vit, etc., etc. Vers où va-t-on? Dans quoi est-on? Sont des questions qui sont vraiment ouvertes si on part de ce territoire-là. En outre, envisager du point de vue de cette pratique, de ce territoire, est-ce vraiment utile de parler encore de ville durable, de l'habiter, de l'habitabilité? Et au fait, je commence à reconsidérer ces termes après ce que j'ai entendu ce matin. Donc, on pourra en reparler. Bref, premier temps, on dressera une cartographie des amis et des ennemis et des mots qui conviennent à celle-ci, donc à cette cartographie, et qu'il faut donc repenser à chaque fois. Dans un deuxième temps, nous traiterons des arts de vivre. C'est-à-dire des possibles et pistes de réflexion, des dimensions, je crois que c'est ça pour nous, les arts de vivre, les dimensions enthousiasmantes ou intrigantes que nous avons découvertes en étudiant les potagers. Alors, on sait bien, découvert est un mot ambigu. En l'occurrence, il serait peut-être plus juste de dire que nous vous présenterons une approche de ces potagers que nous qualifions d'écologique. Donc, écologie comme approche, écologie entendue comme art de penser, écologie comme cette façon d'enquêter qui insiste sur la pluralité des dimensions de ce qui fait nos vies, notre ville, notre milieu, et qui résiste activement, consciemment, à la simplification que produisent les cadrages gouvernementaux et universitaires. Nous en faisons partie. Donc, non, l'agriculture urbaine, celle que nous avons rencontrée, ne sera pas le prochain créneau de développement pour la Smart City ou autre. Non, l'agriculture urbaine, celle sur laquelle nous avons voulu enquêter, ne servira pas non plus à recréer le lien social dont nous manquerions tant, selon pas mal de chercheurs. Alors, nous contournons consciemment ces deux cadrages omniprésents et tentons de tenir ensemble la pluralité des dimensions que recouvre le territoire des terres cultivées dans une ville comme Bruxelles. Car à y regarder de plus près, il est évident que ce territoire, au fait, ne se laisse pas cadrer ni par la compétitivité économique, ni par le paternalisme social, Il ne se résume pas non plus aux trois piliers de la ville durable, que sont le social, l'économique, l'environnement. Les terres cultivées sont peuplées, et le mot a été utilisé ce matin aussi, peuplées de plusieurs choses, de transmissions et d'héritages et des récits qu'on se raconte, et de rapports à chaque fois réinventés au sol, aux plantes, aux cycles de génération, et des réflexions existentielles et sensibilités que ces rapports suscitent, et des modes d'organisation des potagers qui sont à chaque fois négociés, mais aussi des luttes et des résistances pour le maintien de ces potagers, et des pièges que peuvent devenir les solutions scientifiques proposées, mais aussi les identités politiques toutes faites pour accompagner ces luttes, et de réhabilitation des terres, et d'accaparation de toutes sortes, de toits, de bacs, de parkings, de berges, de voies ferrées, et. C'est cela un territoire tenu et entretenu, raconté et transmis par un peuple de praticiens, si on peut le dire comme ça. Ou pour le dire autrement, pour nous, les terres cultivées à Bruxelles tiennent et se maintiennent grâce à cette multiplicité. Grâce à cette multiplicité de dimensions entremêlées, enchevêtrées, les unes avec les autres, dans des rapports de co-transformation et de coproduction. Approche écologique, approche territoriale, donc. Je crois qu'on pourrait le dire comme ça, et qui nous permet, selon nous, de partir du territoire, qui nous permet aussi de détecter des arts de vie. Alors, de la catastrophe, première partie, que nous avons aussi intitulée « Nommer l'ennemi ». Alors, s'il faut nommer l'ennemi, c'est-à-dire qualifier ce qui menace les potagers bruxellois matériellement, concrètement, il n'y a aucun doute qu'il nous faut parler de l'urbanisation. Si les potagers disparaissent, et ils disparaissent, nous y reviendrons, c'est avant tout, quand je dis nous, ce n'est pas parce que je pense que je suis un nous, mais c'est parce que je parle au nom de 6 personnes. Hein, donc nous y reviendrons. C'est avant tout parce que la ville s'étend et se densifie. Il n'y a évidemment dans ce constat rien de révolutionnaire, tout le monde le sait. Mais cela permet de préciser que le système auquel les potagistes ont affaire est moins le système alimentaire, c'est-à-dire le complexe agroalimentaire avec ses supermarchés, ses industries, ses circuits longs, que le système urbain. Ce système urbain est, je vais vite le définir, l'extension et la bétonisation de la ville, sous-tendue par une conception du territoire en des termes de, et j'élaborerai, 1, fonction et surface, ça c'est une logique assez importante, 2, problèmes et solutions, j'y reviendrai, 3, l'engouement pour la nouveauté. Donc, on élaborera ces trois logiques, mais d'abord, rappelons-nous, il ne s'agit pas de nommer l'ennemi dans l'absolu. Il est évident que globalement, le système alimentaire est tout aussi dévastateur que le système urbain, mais il s'agit de nommer l'ennemi du point de vue des terres cultivées à Bruxelles. Précisons que même là, le système alimentaire est évidemment pas absent, qu'il est même crucial, car c'est le système alimentaire qui a rendu la question des terres d'autonomie et de subsistance totalement triviale et qui a donc permis à la ville de détruire ces terres en toute impunité. Et pourtant, c'est donc bien du système urbain qu'il nous faut parler, de l'extension, de la bétonisation, car nous nommons l'ennemi. L'ennemi est pour nous un mot technique, stratégique, plutôt que moral et éthique, et qui désigne ce à quoi on fait face, ce à quoi on a affaire dans les corps, sur les terres, concrètement, matériellement, au présent. Une cartographie, donc. Alors, quels sont les faits ? Ben, regardons ça de plus près. L'extension et la bétonisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que recouvre ce terme en termes statistiques ? C'est la construction résidentielle, la construction d'infrastructures, de voies de transport et de communication, la construction aussi de bureaux et de zoning industriel, et finalement aussi la construction de la fonction de loisirs, c'est-à-dire les stades, les terrains de foot, les terrains de jeu, etc., dont les potagers ne font pas partie parce que ce n'est pas une catégorie reconnue. Alors cette bétonisation, elle est très rapide à Bruxelles. Si elle continue comme elle l'a fait ces 30 dernières années, il ne restera plus aucun terrain non bâti à Bruxelles d'ici, disons, 2140, c'est-à-dire dans 4 générations, donc. Ou autre moyen de faire sentir la portée de ces disparitions et des statistiques, et j'insiste, disparition non pas des potagers, mais des terrains non bâtis, dont seule une petite partie va abriter des potagers, En 26 ans, de 1985 à 2011, Bruxelles a perdu plus de 700 hectares de terre, c'est-à-dire l'équivalent, pour le dire en des termes parisiens, du 13e ou du 16e arrondissement à Paris. La bétonisation est rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le fait est connu, tout ça est en ligne, on le trouve facilement. Mais les uns vont invoquer la nécessité et la naturalité de ce développement à l'aune de la croissance démographique que connaît Bruxelles, d'autant plus contraignante que la ville est enclavée par la région flamande et qu'elle ne peut pas s'étendre au-delà de ses limites administratives. Contre quoi d'autres disent qu'il n'y a là, évidemment, rien de naturel. Ils invoquent la spéculation et la promotion immobilière, et ils n'ont pas tort. Nous-mêmes, on argumente en ce sens. Spéculation et promotion immobilière qui privilégient systématiquement la construction sur des terrains débarrassés de leur ancien bâti, donc table rase, ou sur des terrains non bâtis, plutôt que de rénover, d'exploiter, de réinvestir et de réaménager le bâti existant. Et donc ces militants et chercheurs vont démontrer que ce n'est pas tant la surface disponible qui fait défaut ou qui est en cause que des logiques économiques de raréfaction des biens et des terres en ville que nous connaissons. Alors tout cela est vrai, mais du point de vue des terres cultivées et de ceux et de celles qui tentent de les préserver en ville, cette vérité n'est pas toujours d'une grande utilité. Quand les potagistes sont confrontés à une demande de logements sociaux, de construire des nouveaux logements sociaux, de crèches, d'écoles, pour lesquels ils devraient céder leur potager, nombreux potagistes hésitent. Même s'ils savent que c'est injuste, que c'est manipulateur, que c'est pervers et qu'il y a des logiques économiques de raréfaction des biens et des terres qui sont en jeu, ils sont tentés d'accommoder la demande, ne fût-ce que par un sentiment ou un élan de solidarité, parce qu'on a vraiment un besoin criant pour certaines de ces choses. Alors peu à peu, nous nous disons en tant que chercheurs ici, et nous ne sommes vraiment pas les seuls, qu'il faut travailler en amont de ces logiques infernales, qu'il nous faut fabriquer une conception du territoire où ces fonctions, car il s'agit bien de fonctions, ne sont pas encore différenciées et peuvent donc s'allier. Alors, première logique, le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme est plus présent qu'on le croit. Ceux et celles qui se sentent investis de la mission qui consiste à gérer la ville, à l'aménager, à lui donner un avenir, continue à penser le territoire urbain comme un ensemble de surfaces et de fonctions à pourvoir et à assembler selon des combinatoires les plus optimales possibles. Nous aussi, d'ailleurs, on réfléchit de la sorte quand nous disons qu'il faut réinvestir le bâti existant. On reste dans cette logique-là. Idem pour les urbanistes qui s'intéressent à l'écologie en ville et qui intègrent dans leurs projets de véritables réflexions sur l'alimentation, les cycles de l'eau, la biodiversité, etc. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que le potager, il figure comme ce qui produit des aliments. Il est une fonction, il est une surface. Ce qui permet de le déplacer, de l'intégrer comme coin de verdure, de le placer comme bac sur un toit, façade verte, alliant effectivement alimentation et logement, mais perdant au passage tout ce qui existait en dehors de cette fonctionnalisation. Le problème, il est là. On ne part pas des forces existantes, du territoire tel qu'il se déploie par une pratique, ni des territoires donc d'enchevêtrement et de coproduction, territoires dont on ne peut pas alors aisément retirer une partie pour aller le déplacer, mais on part systématiquement d'un territoire atomisé. Alors l'extension et la bétonisation dont je vous parlais, ou ce qu'on appelle aussi l'urbanisation, peut selon nous être définie comme une opération d'atomisation, de fonctionnalisation. L'extension et la bétonisation sont d'autant plus redoutables que les logements sociaux et les crèches en font partie. Donc n'oubliez pas, nommer l'ennemi ici, c'est technique, c'est stratégique, c'est pas éthique. Donc on a affaire à ces demandes-là qui font partie de la bétonisation. C'est pas aussi simple, on s'en sortira pas si facilement. Et d'autant plus redoutable aussi cette bétonisation que les nouveaux master plans écologiques participe de cette pensée qui conçoit la ville comme atomisée en termes de surface et de fonction. Par où passent alors encore nos alliances? Par où est-ce qu'on peut, où sont nos alliés de l'autre côté? Donc le diagnostic d'une certaine façon est assez simple, il pointe vers la nécessité de se débarrasser du fonctionnalisme et de toute autre forme d'atomisation du territoire. Mais il faut y ajouter deux autres éléments, et là je vais les esquisser brièvement, donc les deux autres logiques. Deux autres éléments. Ben, tout d'abord, il y a l'état des sols bruxellois. Les sols sont pollués. Ils héritent de passés industriels, proto-industriels, qui laissent en eux des métaux lourds, des hydrocarbures et autres vestiges toxiques. Et là où la situation devient réellement tragique et peut être qualifiée de catastrophique, ou comme faisant partie de l'ennemi, ce à quoi les potagistes ont affaire, c'est qu'aucun espace, mais absolument aucun espace, n'est offert aux potagistes pour qu'ils puissent commencer à traiter, à composer avec ce qui est finalement un héritage problématique. Nous avons des sols lourdement pollués à beaucoup d'endroits. Aucun moyen ne leur est laissé pour qu'ils puissent expérimenter et tenter de réhabiliter peu à peu ces terres. Et en creusant le problème, nous nous sommes rendus compte que l'héritage des sols pollués est pris, est tenaillé, est systématiquement abordé dans une logique qui procède par un binôme problème-solution. Voici le problème, sol pollué, voici la solution. Et c'est-à-dire une logique qui procède par des opérations passe-partout, définition de problème universel, application de solutions tout aussi universelles. Il n'y a aucune place pour des tentatives de réhabilitation menées localement, au cas par cas. Soit on ferme le potager, soit on rajoute une couche de terre neuve, en le prenant évidemment d'ailleurs, et le problème est réglé. Finalement, dernier élément, pour que le diagnostic soit plus ou moins complet, il faut ajouter aussi la tendance à la néophilie. Les potagers sont menacés par le fait qu'ils sont représentés ou présentés comme une nouveauté, comme si les terres cultivées en ville dataient toujours de la dernière législature. Les potagers manquent dans les pratiques, sinon dans les discours, de mémoire, d'histoire, et cette ignorance les rend très fragiles ou plus fragiles encore. Ou pour le dire autrement, nous ignorons le plus souvent le brassage des temps dont se nourrissent continuellement les terres cultivées en ville. Nous ignorons que chaque terre cultivée est prise dans un présent épais fait d'histoire, d'héritage, de reprise et de récit. Et cette ignorance fait réellement partie de ce à quoi les potagistes ont affaire aujourd'hui. Alors vous l'aurez deviné, les trois logiques se tiennent et ont partie liée. La logique de la fonctionnalisation qui sous-tend la bétonisation a partie liée avec cette autre logique de problème-solution sans intermédiaire qui crée des situations si tragiques dans les terres polluées, puisqu'on pourrait dire que la ville fonctionnaliste est typiquement celle qui ne s'embarrasse pas de la question des sols comme terreau vivant, qu'il s'agit de réhabiliter, de nourrir, d'entretenir, etc. On n'est vraiment plus du tout là-dedans. De la même manière, la troisième logique évoquée, celle de l'amour pour la nouveauté, qui entraîne cécité, voire mépris, je crois aussi, de l'existant, est partie prenante de ce même territoire atomisé. Donc, trois logiques, on n'est pas très loin là-dessus, mais qui qualifient un territoire qui coupe court à toute relation enchevêtrement susceptible de contrarier les activités de développement et de construction qui sont jugées premières. Alors, pour résumer, la pratique, s'il fallait maintenant la qualifier, la pratique qui consiste à cultiver les terres en ville est une pratique tout simplement menacée. Les potagers ont la vie dure à Bruxelles. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 0,35% de la surface de la ville. On en recense 261, mais là, ce n'est pas dans les jardins privés, donc c'est collectif ou c'est avec accès public d'une façon ou d'une autre. Donc 261 pour une population de plus d'un million d'habitants. On a donc un potager pour 3800 habitants, etc. Et on n'a pas encore abordé non plus la longévité ou la surface de ces potagers. Donc ici, c'est une carte qu'une géographe a faite pour nous, Louise Kestelot. Et vous voyez sur cette carte qu'un tiers seulement des 150 potagers dont on a pu retracer l'histoire, un tiers a une origine antérieure à 1989. Un tiers seulement, c'est pas tant que ça en termes de longévité. Parmi ceux-là, seuls 12 peuvent s'enorgueillir d'avoir une histoire qui remonte à avant 1945. Parmi les potagers les plus récents, plus de donc ceux qui sont plutôt au centre-ville, avec la teinte plus légère, il y en a 80, 2005-2013, et on voit que ces jardins ont une taille beaucoup plus réduite et sont situés au centre-ville, donc avec dont la position est beaucoup plus hypothéquée. Donc. Voilà. Si tel est l'ennemi, les les termes se rejouent d'office. On peut parler de catastrophe de transition, etc. Mais il serait peut-être plus juste ou plus près des faits, si on en est là, dans notre cartographie, de parler d'extinction d'espèces ou de pratiques en voie de disparition. Ou peut-être faudrait-il parler de récupération au sens premier et politique du terme, c'est-à-dire une agriculture urbaine, hype, très technologisée, etc., dont on pourra parler, qui est au fait en train de supplanter celle qui se fait plutôt là, et on pourra en reparler. Donc, en tout cas, telle est la situation. Alors, deuxième partie. J'ai perdu mon chronomètre là. Ok, donc 2 minutes de trop. Deuxième partie.
On est cool là.
Ouais. Ça va. Ah, ok, ça va. Oui, mais eux doivent encore parler. Donc moi, je suis moins cool en fait. Un peu ça, mais c'est vrai. Alors, des arts de vivre. Les arts de vivre, nous, on appelle ça un peu la force de l'existant. Donc, on pourra y revenir, mais c'est quelque chose qui nous a rassemblés et que très vite, on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire exister à travers nos enquêtes. La force de l'existant qui ne peut, et qu'on rate à chaque coup par les cadrages, qui étaient les premiers cadrages qu'on a rencontrés d'ailleurs dans notre enquête. Donc celle du créneau de développement hype, et puis mais le lien social, c'est génial, on va tous se retrouver autour des plantes et des légumes et tout ça. Donc, donc on veut autre chose, quoi. Alors le livre, notre livre qu'on veut, donc dont on espère qu'il va sortir cet hiver, Terre cultivée, récits de Bruxelles, comporte, on a donc 16 récits, 16 récits plus ou moins longs, plus ou moins denses, sur une partie ou une parcelle ou une histoire, un récit, une lutte comprise dans ce territoire ou partie prenante de ce territoire des terres cultivées. Le livre est une monographie, non pas un ouvrage à contribution, même si on est assise à l'écrire. Chacun ou chacune de nous a écrit un ou plusieurs récits. Noémie et Livia, qui sont là, en ont écrit 3 ou 4 chacune. Nicolas, qui est absent aussi, moi j'en ai écrit un. Donc voilà, chacun à sa mesure. Et juste pour vous dire qu'il y a une variabilité des engagements sur ce livre. Mais nous construisons le livre ensemble, assises donc lors de résidences d'écriture, et là aussi on pourrait en reparler, pourquoi est-ce qu'on en a besoin, etc. Mais donc ça c'est un peu notre résultat, c'est aussi ça qu'on va remettre, si on veut, à ce territoire et à ces praticiens avec qui on est un peu en contact, mais voilà, il y a quand même un acte d'intervention là-dessus. Alors lorsque nous disons que les récits sont plus ou moins longs, plus ou moins denses, cela veut dire qu'ils sont le résultat de constructions d'intrigues plus ou moins poussées. Et l'intrigue a vraiment été un élément crucial pour nous, crucial de la démarche, car les dimensions insoupçonnées, intrigantes, ça ne se découvre pas si facilement. Ça ne se découvre pas par la seule force des sensibilités théoriques, même si ça aide énormément, évidemment, et ni par celle de l'induction, d'ailleurs. Il faut construire l'intrigue. Et construire l'intrigue, ça veut dire qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ici ? On ne comprend pas, mais il se passe quelque chose. On sent qu'il y a une intuition, etc. Et de suivre cette intuition et de ne pas tout de suite cadrer et typologiser, etc., ce qui est ce qu'on fait d'habitude. Donc ça nous a vraiment aidé de suivre cette intrigue de qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se joue ici, au ras du sol, dans un corps à corps, quand on est vraiment du point de vue de ce territoire-là. Tout en sachant que la pratique que nous documentons est menacée. Donc il y avait le... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se joue ici? Et nous sentons que la menace pèse. Donc je crois quand même que c'est une intrigue assez particulière. Et voilà, là je cite juste notre introduction qui dit « Cela nous a amené à rédiger des récits de terrain qui font apparaître à la fois la menace, mais aussi ce qui peut y résister ou ce qui peut faire une différence dans les manières de faire vie. » Puisque c'est à ça que nous pensons que ce territoire est confronté. Alors, on va vous raconter 3 récits, et chacun à sa façon brasse les temps et aussi parle de territoires différents. Et je me tourne vers toi, mais en fait, c'est d'abord toi. Voilà.